Bonsoir. Au moins 40 personnes tuées et 147 blessées par les forces de défense et de sécurité entre les 15 et les 31 décembre 2016 dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Boma et Matadi. C'est la conclusion du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié ce mercredi 1er mars 2017. Ce rapport souligne, entre autres, que les FRDC, en particulier ceux de la garde républicaine et de la police militaire, ont fait un usage excessif et disproportionné de la force pour empêcher et contenir les manifestations en décembre dernier. Ce rapport évoque également les actes de violence commis par les manifestants. Quelle analyse faire de ce rapport? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce mercredi 1er mars 2017. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Monsieur Maria Aranaz, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir. Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au moins 40 personnes ont été tuées et 146 blessées entre le 15 et le 31 décembre 2016 dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Boma et Matadi par un usage excessif et disproportionné de la force par les forces de défense et de sécurité qui empêchaient des mouvements de protestation en décembre dernier en RDC. Ceci ressort du rapport du Bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport a été publié ce mercredi 1er mars 2007. Le condensé de ce document avec vous, Onésime Mukandila.
Le rapport révèle que des militaires FARDC, en particulier ceux de la garde républicaine et de la police militaire, ont été déployés en plus de la PNC pour exercer des fonctions de contrôle des foules, alors que la responsabilité de contrôler et de sécuriser les foules incombe normalement à la police nationale congolaise pendant la lite période. Le Bureau conjoint aux droits de l'homme ajoute que lors de la même période, au moins 917 personnes, dont 95 enfants, ont été arrêtées par les agents de l'État dans tout le pays, et de préciser que le nombre des victimes pourrait être plus élevé que celui documenté. Il est également fait état de restrictions des libertés publiques, des droits aux libertés d'expression, d'information et de réunion pacifique. Pour le BCNUDH, ces violations confirment la tendance des autorités à restreindre l'espace démocratique en RDC. Le rapport évoque aussi les actes de violence commis par des manifestants, notamment le meurtre d'un agent de la PNC par des manifestants à Kinshasa le 20 décembre 2016. À Lubumbashi, un policier a été blessé après avoir été touché à la tête par une pierre lancée par des manifestants toujours à la même date. Et à Matadi, un militaire FARDC aurait été blessé par des manifestants qui avaient réussi à lui ravir sa machette. Ces manifestants ont également pillé et détruit des propriétés publiques et privées. Enfin, dans ce rapport, il est demandé instamment au gouvernement de veiller à ce que les responsables des violations commises dans le contexte des événements qui ont marqué la fin du second mandat constitutionnel du président Joseph Kabila rendent des comptes et soient traduisent en justice. Des mesures doivent également être prises à tous les niveaux pour que l'exercice légitime de liberté fondamentale par la population ne conduise pas à la perte de vies humaines et à d'autres violations graves des droits de l'homme.
Merci Onésime Mukandila. José Maria Aranaz, je rappelle que vous êtes directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Au moins 40 personnes tuées, 147 blessées par les forces de défense et de sécurité dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Boma et Matadi. Quels sont les éléments sur lesquels vous vous êtes basé pour affirmer cela?
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité de me donner la parole. Je voudrais commencer pour féliciter Radio Capi dans son 15e anniversaire et à Radio Capi comme symbole de la liberté d'expression consacrée à la liberté, à la constitution de la RDC. Je voudrais commencer aussi pour condamner les abus commis de ceux qui n'ont pas exercé les droits à la manifestation pacifique. Nous condamnons la violence, et demandons une enquête sur la mort de ces policiers et ceux qui sont associés au pillage. Nous parlons de liberté de manifestation pacifique qui était consacrée à la Constitution et qui est essentielle pour un climat crédible et apaisé pour les élections à l'avenir. Notre bureau a présenté au mois de décembre un bilan provisoire qui était basé dans les premières enquêtes préliminaires et qui était partagé avec la population. Ce rapport qui était lancé ici à Kinshasa et à Genève en même temps, c'est un rapport conjoint de la MONUSCO et de le commissaire des droits de l'homme, présente le bilan définitif avec les chiffres qui ont été confirmés par notre bureau. Ça veut dire avec la méthodologie universelle par tout le monde de le commissaire des droits de l'homme, et les chiffres ont été contrastés et ont été partagés avec les autorités. Les buts des rapports, c'est de montrer des aspects améliorés, et aussi de présenter des recommandations pour renforcer la crédibilité du processus électoral. C'est pour ça que nous savons que les forces de sécurité ont fait de bon travail, comme on fait, par exemple, ça s'est passé au mois d'avril de l'année passée, ou au mois de juillet des fois. On a salué les contrôles des manifestations de manière démocratique et pacifique. Mais quand il y a des usages excessifs de la force, surtout par le déploiement des cadres de l'armée, quand le bilan de ça c'est les civils qui ont été tués, on l'a montré pour aider et assister aux autorités à faire une enquête d'un côté. De l'autre côté, il y a aussi des recommandations pour le Parlement et pour les autorités.
Alors, on va parler des recommandations, José Maria, mais la police, on sait que la police nationale congolaise avait publié un rapport après les événements du 19 et 20, les éléments qui se trouvent dans le rapport de la police sont totalement différents de celui du bureau conjoint. La police parle dans son rapport, a parlé de 22 morts, vous parlez d'au moins 40 morts. Est-ce que vous avez contacté la police avant d'élaborer votre rapport? Vous avez échangé avec la police nationale congolaise?
Nous avons contacté notre point focal dans les autorités qui a tous les commentaires des autres départements du gouvernement. Les rapports a aussi une copie. Si vous lisez tous les rapports, il y a les commentaires du gouvernement qui sont été annexés pour montrer quelle est l'opinion du gouvernement par rapport des chiffres, des faits et tout ça. On peut avoir disparité des chiffres, c'est ça qu'il faut comparer. Mais je pense que les processus d'élaboration des rapports étaient faits de manière inconforme avec la méthodologie de le commissaire des droits de l'homme pour les enquêtes dans tout le monde.
Alors, dans ce rapport, qui est quand même un rapport accablant, on indexe les FRDC, particulièrement la garde républicaine et la police militaire. Dans ce rapport, on dit qu'ils ont été déployés à côté de la police pour empêcher les manifestations. Il y a des preuves qui attestent que c'était la garde républicaine et la police militaire aux côtés de la police nationale congolaise.
Oui, nous avons documenté au moins 28 personnes parmi les 40 qui ont été tués par les forces armées. Et il y a aussi encore un autre 6 qui ont été tués dans le cadre des opérations conjointes. Et c'est pour ça que nous rappelons les responsabilités des autorités de faire la lumière. Comme vous savez bien, les usages de la force dans les contrôles de manifestations étaient bien réglés dans les normatives internationales signées par la communauté internationale et par l'RDC. Il dit que l'usage de la force doit être seulement en situation en réponse à la violence de manière proportionnée. Et il faut l'avoir suivi d'une enquête. Ça, c'est les trois principes de la force dans les contrôles des manifestations. Et c'est ça que nous rappelons à la responsabilité de faire ça et de cumplir cette obligation.
Merci, José Maria. Anas Andra Latundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Quelle analyse vous faites de ce rapport?
Excusez-moi. Je voudrais d'abord saluer M. José Maria Arnaz et espérer que son rapport reflète l'esprit de la mission que les États membres dans le Congo ont confiée à ce bureau comme instrument pour faciliter la manifestation de la vérité et améliorer les rapports d'une part entre les États membres et d'autre part entre les États membres et les Nations Unies. Excusez-moi. Et donc, ce n'est pas à moi d'expliquer. C'est à José Maria d'expliquer aux représentants d'un État membre quels sont les tenants et les aboutissants, les raisons pour lesquelles il a employé un certain nombre de choses, pourquoi il privilégie ces chiffres lorsqu'il y a divergence par rapport aux autorités nationales. Je voudrais quand même à ce stade faire quelques observations préliminaires. J'ai l'impression que la République démocratique du Congo n'a pas été associée au même titre que la MONUSCO à l'élaboration de ce rapport, alors que nous savons que une des raisons qui justifie la prolongation de la mission de la MONUSCO, c'est de contribuer à assurer l'ordre, le maintien de l'ordre public. Et donc, la MONUSCO ne pouvait pas participer au même titre que le bureau, parce que ce serait être partie et juge, à moins qu'il n'ait associé aussi les autorités nationales, ce qui n'est pas le cas.
Il a dit tout à l'heure, les autorités ont été associées.
Pas au même titre. Au même titre. Le rapport est dit élaboré par le bureau et la MONUSCO. On devait ajouter et la République démocratique du Congo pour faire équilibre et respecter l'esprit, n'est-ce pas, de la mission qui leur est confiée. Deuxièmement, il y a quand même des utilisations inadéquates des mots. Je ne veux pas être prétentieux pour dire que ce rapport, l'utilisation des mots n'est pas le fait des spécialistes ou d'experts, mais je me demande si ce n'est pas l'effet d'une visée plutôt idéologique. Lorsque on dit « les forces de l'ordre ont tué », vous savez, « tuer » signifie abattre sans raison et sans explication des citoyens paisibles qui vaquaient normalement à leurs occupations. Alors que ce rapport eût été plus près de la vérité en disant que les forces nationales congolaises ont mis hors d'état de nuire autant de personnes, ce qui suppose que c'est en réaction à leurs actes que les forces nationales ont réagi et que dans cette réaction, il y a probablement des cas d'excès, mais la volonté générale, c'est de faire respecter l'autorité de l'État que certains groupes de citoyens voudraient défier. Ça, c'est important.
En faisant usage excessif et disproportionné de la force.
C'est leur appréciation. Qu'est-ce qu'on attend par usage excessif? Voilà pourquoi je dis qu'ils devaient associer au même titre la MONUSCO et les autorités nationales compétentes pour qu'ils s'entendent sur l'usage de mots avant de dire. Excessif, qu'est-ce à dire? Dans les circonstances actuelles, lorsque vous êtes devant un terroriste, vous allez vous présenter tout seul? Il faut quand même supposer que nos
troupes... Vous comparez ces manifestants aux terroristes?
Bien entendu, dans l'esprit. Mais en plus, je crois qu'il est excessif de dire que nos troupes ne sont pas préparées à ce genre de mission. C'est excessif. Souvenez-vous des dispositions non létales et finalement amusantes qui ont abouti à des résultats spectaculaires. Le match des policiers de 6h à 18h pour empêcher aux manifestants de se livrer à des actes et à des manifestations non prévues. Je crois qu'on devait aussi relever cet aspect de génie de notre police. Au lieu de mettre des policiers armés, eh bien les policiers ont joué, ce qui aboutit au même résultat, mais sans casse. Ça, c'est très important.
Alors, le rapport parle de la présence de la garde républicaine et de la police militaire pour empêcher justement ces manifestations.
Est-ce que c'est
le travail de la garde républicaine?
Est-ce que c'est le rédacteur de ce rapport est l'autorité compétente pour décider si, dans telle circonstance, c'est tel corps de l'armée qui participe à l'opération ou non?
Ben,
Moi aussi, je peux poser la question.
C'est la police qui est censée encadrer les manifestations.
Je me pose la question, pourquoi, dans ces manifestations, je vois aussi les véhicules de la MONUSCO et qu'on ne signale pas? Est-ce que c'est le rôle de la MONUSCO? Je pense que nous devons élaborer ce rapport dans un même objectif, c'est-à-dire manifester la vérité et améliorer les rapports, les relations entre nos États, parce que nous visons tous, nous travaillons tous pour une démocratie consensuelle.
Merci, je vous redonne la parole, monsieur Atundu.
Ah ben voilà,
je vous redonne la parole, professeur Bob Kabama, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, professeur, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, quelle lecture vous faites de ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme?
Merci beaucoup, madame, pour m'avoir associé à ce débat qui est très important. Première chose, vous devez savoir que la Commission, elle est bien dans son mandat. Le mandat qui était défini clairement par la résolution du Conseil de sécurité et qui demande effectivement de faire des monitoring par rapport à ce qui se passe en RDC. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ce mandat, les rapports qui sont faits dans le cadre de la MONUSCO, ce sont ce qu'ils ont fait comme si ce serait fait par des agents assermentés liés à la résolution du Conseil de sécurité. Donc le rapport, il est bien dans cet élément. C'est que les résultats de ces rapports sont très graves, et par rapport aux autorités congolaises, c'est que c'est comme si c'était un OPJ de la justice congolaise qui faisait un rapport par rapport à des délits et à des faits qui sont passés sur un territoire à un moment donné. Et ce qui fait que ces délits qui sont dénoncés dans ces rapports constituent ce qu'on appelle des éléments de preuve à l'encontre des autorités congolaises. Autorités, de manière très claire, ici on est par rapport aux forces de sécurité qui concernent non seulement les forces armées, ça veut dire le chef d'état-major, ça veut dire tout ce qui est commandement de l'armée, et aussi tout ce qui concerne les forces de sécurité. Et donc ce qui est comme conséquence, de manière claire, sans ambiguïté, que en fonction des éléments qui sont dans le rapport, ça constitue de manière sans ambiguïté des éléments de preuve de ce qu'on peut appeler des crimes de guerre et des crimes qui peuvent être sanctionnables au niveau de la Cour pénale internationale.
Alors, professeur, les autorités congolaises ont rejeté carrément ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies. Là, on a suivi tout à l'heure l'ambassadeur Atundu qui estime que l'usage des mots est quand même très fort. Lorsqu'on parle, par exemple, de tuer, est-ce que vous êtes en ligne, professeur? Je crois qu'on a perdu le professeur Bob Kabamba. La réalisation va essayer de le retrouver. Monsieur José Maria, avant de réagir au propos de l'ambassadeur Atundu, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu, dans la province du Maniema.
Mikumbi le Sumba Isaac depuis Kindu dans la province du Maniema. C'est bon de publier des rapports parce qu'ils nous permettent de savoir qui a fait quoi. Il convient cependant de se demander ce que faisons-nous de ces rapports. Pourquoi rapporter si ceci ne serait qu'une lettre morte? Pourquoi l'indifférence, pour ne pas dire l'hypocrisie de la communauté internationale au sujet des sanctions infligées aux instigateurs de ces scènes horribles? Je pense qu'il est temps que l'ONU comprenne que les peuples congolais, à l'occurrence d'autres peuples du monde, méritent la justice et non la barbarie et la violence. Car un acte de justice et de douleur a souvent plus de pouvoir sur le cœur des hommes que la violence et la barbarie, disait Nicolas Machiavel.
Alors, monsieur José Maria Halaza, vous avez suivi cet auditeur. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Oui, je partage la même préoccupation. Les citoyens et de l'RDC ont le droit d'habiter dans une société démocratique et ils ont les mêmes droits aux droits de l'homme que tous les autres. Ils ne sont différents. C'est la raison principale que les bureaux conjoints et avant ça la présence de l'haut commissaire de l'homme a été établie pour ça. C'est pour ça que des premiers rapports publiés par les bureaux des Nations Unies des droits de l'homme, c'était le rapport Mapping qui a montré les crimes commis par les forces armées étrangères contre la population de la RDC. Je voudrais remercier aussi l'ambassadeur Rotundu pour ce qu'il a dit, parce que dans le même esprit, je veux dire, comme j'ai dit beaucoup de fois, nous ne sommes pas ici pour indicter les institutions. Nous sommes ici pour donner notre appui aux institutions du gouvernement et pour aider à faire la lumière et pour améliorer la performance et les conduits et contribuer à la professionnalisation des forces et services de sécurité de la RDC, notamment la police et la FRDC. Et c'est pour ça que quand nous parlons de l'usage excessif de la force, nous n'indiquons pas l'institution, nous voudrions donner l'appui à une enquête qui fait la lumière et qui attribue la responsabilité personnelle à ceux qui ils sont conduits d'une manière illégale, au contraire au respect de la loi internationale, ou ceux qui sont donnés les ordres. Mais le but final de ces rapports et de tous les autres rapports et aussi de les autres activités de la MONUSCO et des bureaux conjoints, parce que les rapports ont fait, aujourd'hui on parle beaucoup des rapports, mais nous faisons aussi beaucoup des autres activités d'appui aux autorités, c'est d'améliorer et de contribuer au renforcement institutionnel de toutes les institutions qui s'impliquent dans la construction nationale ou le processus démocratique ou le processus électoral à la RDC. Et nous pensons que la gestion pacifique et professionnelle des manifestations, c'est essentiel pour la crédibilité du processus électoral. Et pour ça, il faut depurer les responsabilités personnelles de ceux qui sont commis les crimes ou les violations des droits de l'homme. Et c'est pour ça que nous avons rappelé d'avoir une initiative au niveau du gouvernement de tolérance zéro contre la violation des droits de l'homme pour finir la culture de l'impunité. Et c'est pour ça que nous avons reconnu aussi l'initiative du président par rapport des efforts de la lutte contre l'impunité en matière de violence sexuelle, mais aussi quand il y a des membres des forces de sécurité qui ont été indiqués pour la violation des droits de l'homme et nous applaudons ces efforts.
Alors il y a cet autre auditeur, Alain Zidane, une âme qui dit ceci: nous sommes fatigués avec ce genre de rapport, on n'a pas besoin de rapports dont les sanctions ne suivent pas. Un adage dit: au lieu de dénoncer un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vaut mieux ne pas en parler. Vous publiez des rapports, mais qui restent lettres mortes, apparemment.
Et c'est pas la lettre morte. Comme j'ai dit, les rapports, c'est seulement un instrument pour identifier de manière incisive et quels sont les défis et aider aux autorités à mettre en place les solutions pour les résoudre. Et je peux vous dire, dans l'année passée, notre bureau a publié presque 24 et 25 rapports. Mais du même côté, notre bureau a donné l'appui aux autorités ou à la société civile avec 236 activités de formation et capacitation et avec un valeur de plus d'un million de dollars. Alors ça veut dire, d'un côté, il y a un aspect de rapport que, comme les professeurs a dit, ça vient du mandat qui nous a donné les conseils de sécurité, mais il y a un aspect pour moi plus important de renforcement des capacités des autorités qui n'était pas reconnaître, qui n'a pas cette publicité, mais que c'est très important et qui accompagnait les autorités depuis un vingtaine des années.
Merci. On me dit que le professeur est en ligne. Professeur, vous êtes là?
Oui, je suis là. Je m'excuse, je présente mes excuses parce qu'on a été coupé.
Oui, allez-y, professeur. Je crois qu'on a un souci avec la ligne du professeur. Monsieur Atundu, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Chikapa.
Moi, c'est Marcel Kitambala de Chikapa. Moi, je ne parlais pas de Thierry, mais je parlais de massacres bien organisés par les pouvoirs en place Voici maintenant le rôle de ceux qui prétendent de protéger la population et ses biens. En lieu et place d'envoyer l'armée contre le M23 à l'Est, qui est l'ennemi du peuple, vous envoyez le garde républicain armé jusqu'aux dents, plus grave avec des charges, des combats et de lance-roquettes pour tuer le peuple. Et ma question est de savoir pourquoi le peuple de l'ordre intervient-il dans des manifestations qui sont déclarées pacifiques avec des armes de guerre? Est-ce que l'État ne peut pas, dans son pouvoir régalien, chercher d'autres méthodes pour encadrer des manifestations?
Ambassadeur Atundu.
Merci bien, cher monsieur. Vous employez des mots de massacre bien organisé par le pouvoir. Il n'est pas normal pour un homme sensé de penser que la structure qui est appelée à gérer le pays et la communauté nationale soit celle-là qui massacre les citoyens. Mais malheureusement, c'est le résultat de ce genre de rapport. À force de donner l'impression que les forces de l'ordre ne sont là que pour combattre, tuer, j'emploie le mot qu'ils ont employé, tuer les citoyens sans raison et sans explication, eh bien le résultat c'est ce message trouble dans l'esprit des citoyens qui se demandent mais comment est-ce possible que les forces de l'ordre participent ou encadrent les manifestations. Voyez, alors on se pose cette question, on peut aussi se poser...
Vous pensez que les gens, ils disent pas ça, ils ne sont pas témoins de tout ce que, tous les actes posés par les forces de l'ordre.
Ce qui s'est passé ici le 19 n'était pas perçu la même chose qu'à Kananga ou ailleurs. C'est ça, parce que ce rapport... Je dirais par exemple, M. José de Maria a reconnu que les autorités nationales, avec je crois la MONUSCO, ont fait des efforts importants pour la remise, pour la... Le renforcement des capacités. Or, dans le rapport, il est écrit que nos hommes ne sont pas suffisamment préparés, ne sont pas suffisamment équipés. Vous savez, ça crée un message trouble. Et moi, je voudrais, n'est-ce pas, que nous puissions plus travailler pour la vérité que pour l'émotionnel. Vous le savez, que nos autorités n'ont pas besoin ou n'ont pas attendu que le bureau... le bureau ici qui a été créé en 2008 pour qu'il y ait une justice militaire, qu'il y ait une justice civile et que chaque fois qu'il y a mort d'homme sur le champ des opérations ou en dehors, qu'il y ait une enquête judiciaire. Et M. José Maria sait très bien que le rythme de la justice ne répond pas à la pression inconsidérée de l'opinion. La justice ne doit pas se presser parce que le coupable a plus d'un tour dans son sac pour cacher les motivations et les faits. Voilà pourquoi, je dis, nous devons travailler dans la sérénité, donner confiance en nos populations, en se disant, oui, l'armée est là pour ceci, pour cela. Les gens qui ont mal agi dans l'armée, ils sont déjà punis. Et nous continuons ensemble. C'est ça qui crée le sentiment de confiance vis-à-vis de la population. Alors, en principe, ce rapport devrait concerner les journées du 19 et 20 décembre. Mais ce rapport concerne les journées du 15, une période d'ailleurs, qui va du 15 jusque presque au 30. Est-ce pour avoir assez de chiffres pour dramatiser la situation ? Ou bien parce qu'on voudrait absolument indexer le pouvoir congolais en disant qu'il est responsable. Je pense...
Et donc vous rejetez ce rapport, vous n'êtes pas d'accord avec le bureau conjoint?
Je serais tenté à dire que pour respecter l'esprit de la mission que les États membres ont confiée à ce bureau, ce rapport doit être mieux rédigé en respectant la déontologie du droit et de l'équité qui va du principe de l'habeas corpus, c'est-à-dire il faut voir au moins celui qui a commis le crime, le contradictoire, l'entendre, les raisons, et puis faire appel quand même au criminologue. Parce que la raison profonde des actes, c'est ça qui va empêcher la commission de tels actes dans l'avenir. Il ne faut pas se limiter à l'aspect spectaculaire et sociologique. Il y a eu 40 morts, etc. Mais tuer 40 citoyens sans raison, sans explication, c'est révoltant.
Merci, ambassadeur Atundu. Professeur, vous êtes là?
Je suis là, merci, je suis là.
Alors, professeur, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
de Patrice Mbouli Kassama depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Cet énième rapport de cet organe de l'ONU doit une fois de plus interpeller le gouvernement ainsi que les acteurs politiques congolais de tous bords. D'autant plus que la responsabilité est partagée entre les services de l'ordre qui, des fois, font usage excessif et disproportionnel de la force, mais aussi les acteurs politiques qui mobilisent leur base à manifester sans mot d'ordre ni directive. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a manifestation, on dénombre des dégâts importants. Il est donc impératif qu'à chaque niveau de commandement, que chacun assume ses responsabilités pour éviter des accusations qui vont dans tous les sens.
Professeur, comment vous réagissez à la réaction de Patrick Mbouli qui nous écrit depuis le Lubumbashi?
Oui, merci beaucoup, madame. Désolé pour les problèmes de communication. Première chose, il faut d'abord dire que la commission, elle est dans son mandat clairement établi par la résolution du Conseil de sécurité. Et ce que je voulais dire à l'ambassadeur Atundu, c'est que la commission a produit constitue une preuve à l'encontre, quel que soit devant n'importe quel cours, ce qu'elle a produit sera une preuve pour dire que les autorités congolaises ont perpétré des massacres vis-à-vis des populations, populations congolaises par rapport à ce qui est établi dans la communication. Et donc, de manière très claire, il est établi qu'il y a eu 40 personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre. Quel que soit ce que l'ambassadeur peut dire, ce sont des faits qui sont établis dans le cadre du mandat qui a été clairement établi par le Conseil de sécurité. Donc, en réponse par rapport à l'auditeur, c'est un énième rapport. On peut dire que ce sont des rapports qui s'accumulent, en fait. Ils s'accumulent en termes de preuves, en termes de...
Allô, professeur? Je crois qu'on a un souci avec la ligne du professeur. Désolé. Alors, José Maria, cet auditeur, je reviens sur la réaction de cet auditeur de Lubumbashi qui estime qu'on ne doit pas condamner seulement le gouvernement ou les forces par rapport à l'usage excessif de la force, mais aussi les leaders des partis politiques, ceux qui mobilisent les manifestants. Pas des directives, ça va dans tous les sens, et c'est comme ça qu'on se retrouve devant des policiers qui parfois tirent sur la population parce qu'il n'y a pas d'encadrement.
Oui, tout à fait. Je pense que les organisateurs et les convocants des manifestations ont une grande responsabilité à contribuer à la manifestation pacifique, à l'encadrement et à la sécurité. Et je pense que c'était très bien fait au mois de juillet et au mois d'avril à Kinshasa. On a salué ça. Je voudrais aussi, je partage la frustration de l'auditeur de Chicapa, parce que ce qui se passe à Kasaï est très sérieux, et je suis vraiment d'accord avec l'ambassadeur dans une chose. Il faut punir les responsables, pas les institutions, pas les gouvernements, mais les responsables de la violence, pour éviter la violence à l'avenir, soit les acteurs étatiques ou soit les politiciens ou soit qui soit. Et comme nous avons dit, nous saluons l'ouverture des enquêtes aux événements de Kasaï, la décision du gouvernement de donner l'instruction aux auditeurs militaires d'ouvrir les enquêtes pour les allégations graves, qui sont des allégations, mais qu'il y a une base solide. Et nous sommes prêts à donner notre appui à cette enquête. Pour faire la lumière de ce qui s'est passé là-bas. Je partage aussi avec le professeur l'appréciation qu'elle dit, ça s'accumule. Le problème est, nous avons salué quand les comportements des forces de sécurité étaient professionnels, mais quand il y a une tendance à réprimer de manière violente, qui peut constituer aussi l'intimidation des droits constitutionnels, et il faut l'indiquer et il faut les remarquer pour corriger cette tendance si on veut voir le processus électoral crédible et apaisé.
Alors on me signale que le professeur est de nouveau allé en ligne. Professeur, vous êtes là?
Oui, je suis en ligne, mais je ne comprends pas, c'est coupé le temps.
Alors professeur, vous étiez en train de réagir au propos de cet auditeur de Lubumbashi.
Oui, en fait, j'expliquais par rapport à l'auditeur de Louvain-Bassy qu'il avait tout à fait raison. C'est que les rapports qui sont produits par la commission, et ça ne sert à, je ne sais pas dire que ça ne sert à rien. Ce sont des rapports qui s'accumulent, qui constituent ce qu'on appelle des preuves en matière de justice internationale. Ce sont ces rapports-là qui tiennent compte pour que le Conseil de sécurité et la Cour pénale internationale puissent prendre des résolutions ou bien commencer à interpeller des gens qui sont identifiés dans ces rapports. Ici, par exemple, dans le cas présent qui nous intéresse, ça veut dire qu'il y a l'armée, de manière très claire, qui est identifiée pour avoir commis des exactions. De manière très claire dans ce rapport-là, ça veut dire lorsque la Cour pénale internationale ou quelque instance internationale qui va se prendre du dossier va utiliser les rapports de la commission comme preuve, élément de preuve, pour inculper tel ou tel général qui est impliqué dans ces crimes-là, ou bien qui a été crédité ou quoi que ce soit. Et donc je voulais insister de manière très claire auprès de l'ambassadeur Atundu pour dire que les rapports qui sont faits, c'est dans le cadre des mandats de la MONUSCO, qui a été très bien accepté par le gouvernement congolais, qui a accepté que la commission puisse faire des enquêtes, puisse produire des rapports, c'est bien accepté par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais ne peut pas dire aujourd'hui que les rapports qui sont produits par la commission ne sont que des rapports, entre guillemets, qui sont faits à l'insu de son plein gré. Le gouvernement congolais a accepté que la commission fasse ces rapports-là dans le cadre de la résolution. De manière très claire, toutes les résolutions, tous les rapports qui sont faits, le gouvernement congolais accepte que la commission puisse faire son travail. Et malheureusement pour le gouvernement congolais, tous ces rapports-là vont à l'encontre de ce que le gouvernement congolais imaginait. Et donc on ne peut pas dire, que l'ambassadeur Atundu ne peut pas dire que c'est que les rapports qui sont faits à charge sans nécessairement que le gouvernement congolais ne soit au courant. C'est faux, puisque le gouvernement congolais a donné mandat clairement à la commission pour faire ce travail. Et donc, si le travail incrimine le gouvernement congolais n'a qu'à s'apprendre à lui-même d'avoir accepté que la commission fasse ce genre de rapport.
Alors, professeur, ce rapport recommande au gouvernement de la RDC d'adopter d'urgence la loi sur la liberté des manifestations pacifiques et la loi sur les défenseurs de droits de l'homme.
Oui, mais il n'est pas besoin de pouvoir adopter de manière urgente ces lois-là. Puisque la Constitution est déjà très claire à ce sujet. La Constitution confirme le droit de manifester, a même mis sous une série de prérogatives pour permettre à ce que la liberté de ce droit de pouvoir s'exprimer soit faite. Maintenant, il y a une dimension sur laquelle, effectivement, la recommandation insiste, c'est par rapport à ce qu'on appelle les dénonciateurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de pouvoir surveiller ce que le gouvernement congolais fait. Là-dedans, il faut une loi. Effectivement, il faut une loi par rapport à tous ceux qui parviennent à pouvoir alimenter la communauté internationale sur toutes les dimensions concernant les exactions qui sont commises. Et là, effectivement, il faut protéger ces personnes-là qui sont chargées de pouvoir, entre guillemets, servir dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité pour pouvoir alimenter les rapports qui sont faits et qui sont comme, entre guillemets, je peux dire, vraiment entre guillemets, sont comme les agents de justice qui dénoncent, en fait, qui dénoncent ces actions qui sont commises et ces actions, les gens qui les dénoncent doivent être protégés comme sont dénoncés les enquêteurs, comme sont dénoncés les juges d'instruction qui doivent faire le travail par rapport à la constatation des exactions qui sont commises.
Merci, professeur. Ambassadeur Atundu et à Damien Mweni Kasaka depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Il dit ceci, je salue la crédibilité du rapport des Nations Unies et demande aussi au gouvernement congolais d'aller au-delà de ce rapport avec des enquêtes crédibles pour faire toute la lumière sur ces incidents afin de punir les auteurs des violations de droits de l'homme ainsi que des crimes qui ont été commis.
Mais ces choses faites, ou ces choses en train d'être faites, le porte-parole du gouvernement a dit qu'il y avait des officiers et des hommes de troupes qui étaient déjà punis pour des cas avérés. Pour d'autres cas, des enquêtes continuent. Et une enquête judiciaire sérieuse n'a pas pour vocation de se passer sur un plateau de télévision ou à la radio. Parce que ça prend du temps. Je vous ai dit que le criminel ou le coupable a plus d'un tour dans son sac. Et alors, lorsque le professeur dit que ce rapport est une preuve, ben c'est une affirmation grave. Voilà pourquoi il faut que ce travail convainque les États qui ont donné cette mission, dont la République démocratique du Congo. Nous avons donné une mission, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec toutes les décisions. Même sur le plan interne, la justice a la mission de dire le droit. Est-ce que lorsque la justice dit le droit, elle n'est pas contestée? Donc je pense qu'il faut, se calmer. Et la justice ne doit pas se limiter aux faits sociologiques. La justice, le jugement, c'est l'aboutissement ou la conclusion d'un processus de droit en vue d'assurer l'égalité et l'équité de traitement. Donc ici, on ne défend personne. Et vous savez que dans les enquêtes, à part les faits, la cause ou les causes sont importantes. Les conditions des commissions sont également importantes. Donc il faudrait que les rédacteurs et les gens du gouvernement, les gens qui sont mis en cause, il faut qu'ils se mettent d'accord. Parce que nous sommes partenaires dans la recherche, n'est-ce pas, dans l'implantation de la démocratie, et il n'est pas normal que tous les rapports ne visent que à montrer qu'il n'y a pas de démocratie ici, c'est moins qu'il y a quelques années, etc. Non. Mais je pense, je ne sais pas si j'aurai le temps
voilà,
de conclure.
Vous n'avez plus beaucoup de temps, vous allez tout conclure. Mais qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les droits de l'homme en RDC, M. Atundu?
Mais je voudrais d'abord, pour améliorer les droits de l'homme, n'est-ce pas, à la RDC, je voudrais d'abord demander à M. José de Marias de reprendre ce rapport et de l'élaborer dans des conditions d'équité incontestables. Deuxièmement, je voudrais demander à nos populations de garder leur sérénité. Parce que, souvent, la victoire de la vérité survient après le triomphe du mensonge. Ce rapport peut être spectaculaire, mais lorsque l'émotionnel sera passé, eh bien la population reconnaîtra la mission, la noblesse de la mission des forces de l'ordre et les sacrifices qu'ils ont faits à cette occasion-là.
Merci, ambassadeur Atundu. José Maria Paranas, vous allez aussi conclure. Vous avez suivi l'ambassadeur qui vous demande de reprendre ce rapport et de le travailler en toute équité incontestable.
Oui, que, comme j'ai dit, les rapports, c'est seulement un instrument de travail qu'on peut utiliser. Et il faut le voir comme une opportunité. C'est une opportunité pour commencer l'enquête, pour faire la lumière, pour mettre les responsables et pour montrer au monde que les institutions de l'RDC travaillent pour leurs citoyens et pour consolider la démocratie. Nous sommes ici pour les appuyer, nous sommes prêts à donner l'appui à une enquête, à l'enquête qu'a montré que nous avons proposée, mais nous sommes ici pour donner l'appui au processus électoral, pas seulement à la logistique, à la consolidation de la RDC, à la consolidation des institutions, et aussi au Parlement et aux autres institutions pour mettre en place un cadre légal qui renforce les droits de l'homme pour tous les citoyens de l'RDC, même pour les voix dissidents.
Merci, José Maria Ranas, professeur. Votre conclusion?
Bon, ma conclusion, c'est pour dire aux autorités congolaises qu'ils acceptent d'une fois qu'on demande à l'ONU d'être là en appui à l'RDC par rapport aux crimes qui sont commis. Et lorsque la communauté internationale fait des rapports, et tout de suite on commence à crier au complot. Alors que la RDC a autorisé la communauté internationale à pouvoir enquêter sur tout ça. Et puis, ces différents rapports constituent des éléments de preuve qui peuvent être utilisés à n'importe quel moment en termes de pouvoir sanctionner les uns à les autres. Je pense que la semaine prochaine, il y aura déjà des problèmes liés aux sanctions qui sont prises par la communauté internationale contre l'autorité congolaise.
sera lié au, aussi aux rapports qui sont transmis par la MONUSCO.
Merci, professeur. Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Mon sud au programme sur la fréquence de la paix.